partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, 19h pile à la pendule de Principe Actif, parce qu'on a une belle pendule dans le studio. 19h pile, donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour son émission mensuelle. Bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Principe Actif, comme on dit tous les mois. Donc, on ne va pas déroger à l'habitude. Et ce soir, au micro avec nous, il y a... On va commencer par celui avec qui on termine d'habitude. Il y a Ronan derrière les manettes. Il est en train de ranger ses CD encore tout de suite.
Bonsoir.
Il y a Patrice.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Et il y a... Vas-y, Ronan, à chaque fois, je te demande de m'annoncer.
Ah, ouais, je serai de chercher ton... Didier.
Il a oublié mon nom.
Mais non, on ne peut pas l'oublier.
Oui, bon, tu parles. Donc, voilà. Donc, le groupe d'Amnesty International, on va consacrer cette heure-là, comme tous les mois, le dernier mardi de chaque mois, on vous le rappelle, mais on le répétera à chaque fois, le dernier mardi de chaque mois en direct, 19h à 20h, sur l'actualité des droits humains de notre groupe, l'actualité nationale et internationale du sujet. Tout ce qu'on a envie de vous dire et tout ce qui est important que vous sachiez par rapport à tous les problèmes qui se posent vis-à-vis du respect des droits humains. Et Dieu sait que c'est un vaste sujet. On vous rappelle aussi que les émissions elles sont mises en podcast très très vite après le jour de l'émission, donc vous pouvez les retrouver sur le site de Principe Actif.
Le soir même, je pense, non ?
Oh, pas tout à fait, parce que des fois, comme c'est moi qui le fais, j'ai pas le temps de le faire en rentrant, mais c'est le lendemain, au pire, le surlendemain, c'est fait. Donc vous allez sur le site de Principe Actif, www.principeactif.net, la rubrique podcast, et vous avez nos émissions depuis des années, vous avez plus de 4 ans d'émissions qui sont archivées. N'hésitez pas à les réécouter. Voilà. Ce soir, donc, on va vous annoncer un petit peu l'actualité, les différentes actualités qu'on va traiter. Donc, il y a un assez gros dossier dont je vais vous parler, qui est une campagne qui est lancée depuis la fin de la semaine dernière. Renan, je ne sais pas si tu avais noté le jour où ça a été lancé, le 25, je crois, non ?
C'était jeudi, je crois.
Oui, enfin, bon.
Il me semble jeudi dernier.
Et la campagne s'appelle « Crapules et vacances ». C'est une campagne lancée par Amnesty France. Alors, on n'est pas très loin depuis les vacances d'été, on n'est quand même que la fin octobre. Donc, « Crapules et vacances », pourquoi ? On va vous expliquer ça, effectivement, dans très peu de temps. Il y a Françoise qui va vous parler d'un sujet qu'on a assez peu abordé dans nos émissions. Malheureusement, on n'a jamais le temps de tout dire, mais qui est un sujet important. Elle va développer différents sujets autour des droits des enfants. Donc, ô combien important. Il y a Patrice qui va vous parler de l'actualité de la peine de mort. Aussi, c'est un sujet grave, mais c'est une campagne d'Amnesty depuis des années et des années, qui vivent, et des dizaines d'années maintenant, qui vivent à l'abolition générale et universelle de ce crime cautionné par l'État qui s'appelle la peine de mort. Et puis, il y a bien sûr Ronan avec ses éternelles bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je crois qu'il n'en a pas, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit depuis le mois dernier, Ronan.
Ah, on verra bien.
Bon, d'accord. On laisse le suspense.
On verra
et
bien.
Et puis...
le mois dernier, je ne sais pas si tu te rappelles, je n'ai pas pu en dire une seule.
Tu n'as pas pu en dire une ?
Je n'ai pas pu passer un mot à la
dernière. Donc, tu as tout gardé pour ce mois-ci ?
Ah, il y en a, et des nouvelles.
Bon, tu vois, finalement, tu t'es vendu. Si, on a des bonnes nouvelles, évidemment.
Bah, y a
et
toujours
puis aussi,
des bonnes
un appel à l'action qu'on vous présentera dans la deuxième partie de l'émission. Aussi, nos actualités locales, bien sûr, pour lesquelles on vous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, du moins, les 2 mois qui viennent. Voilà.
Jusqu'à la fin de l'année.
Donc, on va passer au premier sujet, qui est donc cette histoire de dossier Crapules et vacances. Pourquoi vous parle-t-on de ça ? Un petit préambule, on vous parle toujours des droits humains depuis qu'on est au micro de Principe Actif. Et les droits humains, c'est effectivement un vaste sujet, mais je l'ai déjà dit dans des petites interpellations, comme ça, des petites chroniques, mais c'est important de toujours l'avoir à l'esprit. Les droits humains, c'est quand même la meilleure façon, on a beau retourner le problème dans tous les sens, c'est la meilleure façon de vivre intelligemment entre nous, de se respecter les uns les autres, de vivre dans une société effectivement à l'abri de trop grandes violences. Rien n'est jamais parfait, on n'obtiendra jamais une paix universelle. On essaye d'y parvenir, mais on en est encore loin. Mais ça permet au moins de vivre entre nous en se respectant les uns les autres, en ayant des États qui respectent aussi qui on est. et ce qui ne nous empêche pas de faire effectivement leur rôle d'État et de remplir leurs fonctions, les fonctions indispensables au fonctionnement d'un État, mais de respecter qui on est, de respecter nos libertés, de respecter, etc., de vivre encore une fois en bonne intelligence. Et on se rend compte dans tous les pays qui ne respectent pas ça, à combien effectivement la société civile elle-même est détériorée tout le temps. Enfin, Patrice connaît bien les pays comme la Tunisie, il peut en parler mieux que moi, et on peut faire des différences entre des pays qui sont relativement, même s'il y a des pentes dangereuses, relativement respectueux des droits fondamentaux comme on l'est dans les pays européens, et des pays qui en sont très éloignés. Donc les droits humains, c'est aussi une façon, au-delà de tous les grands principes, de vivre intelligemment entre nous et de faire que on ne se tape pas sur le coin de la figure pour n'importe quel prétexte, on ne s'exclut pas, ou du moins le moins possible, on ne se remet pas en cause, on s'accepte, on se tolère, et voilà. Et tout ça pour vous dire que pour fonctionner comme ça, il y a besoin d'un certain nombre de règlements. On parlait d'État tout à l'heure. Bien sûr, les États sont là aussi pour faire des lois qui permettent d'agir dans ce sens-là et de les faire respecter. Et parmi les campagnes que mène Amnesty, on parle très souvent de droit international, puisqu'Amnesty est une organisation internationale, comme son nom l'indique. On parle toujours de droit international et c'est dans cette optique-là qu'on demande le respect des principes internationaux du droit. Et c'est pour, encore une fois, vivre en bonne intelligence. Ce n'est pas uniquement pour dire on est les meilleurs, loin de là, mais c'est pour simplement de dire on vit en bonne intelligence. Donc on essaye du moins. Donc parmi les principes que défend Amnesty depuis très longtemps, il y a le fait que, bien sûr, on demande la libération des gens qui sont injustement emprisonnés, injustement torturés, injustement poursuivis, etc., etc. Tout ce qu'on vous raconte depuis des années dans nos émissions. Mais il y a aussi le fait, on vous en a déjà parlé, mais on va en détailler un peu plus ce soir, le fait qu'on vous demande, Amnesty demande du moins, que les gens qui sont coupables de crimes, les tortionnaires, les chefs d'État, les Hachar el-Assad, pour ne pas en nommer un tout de suite, par exemple, tous ces gens-là, effectivement, soient poursuivis pour leurs actes de la même façon et ne puissent pas se la couler douce tranquillement, qu'ils soient au pouvoir ou après le fait qu'ils aient quitté le pouvoir, avec X crimes derrière eux, avec des populations terrorisées, avec des enfants, des femmes et des enfants incarcérés, torturés, abattus, exécutés sommairement, et que tous ces gens-là, effectivement, qui commettent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre différents, etc., soient poursuivis. Ça nous paraît une évidence. Et c'est aussi une façon de protéger les victimes de ces gens-là, de faire que la justice puisse arriver à passer un jour ou l'autre. Et pour obtenir ce genre de choses, et il faut effectivement des outils, encore une fois, des outils juridiques, des outils qui sont du ressort des États, mais qui s'appliquent de façon universelle. Et Amnesty a longtemps œuvré pour la création d'une structure qui existe depuis maintenant une douzaine d'années et qui s'appelle la Cour pénale internationale. On vous en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais ce soir, la chronique qu'on va aborder tout à l'heure, donc Crapule et vacances, fait le lien par rapport à cette Cour pénale internationale. Vous allez comprendre pourquoi. Alors un petit rappel historique sur ce qu'est la Cour pénale internationale et d'où ça vient et à quoi ça sert en gros. Alors la Cour pénale internationale est au centre du nouveau système de justice internationale. C'est un mécanisme crucial qui incite les autorités nationales à prendre leurs responsabilités en enquêtant et en poursuivant les auteurs présumés des crimes et qui intervient lorsqu'elles ne le font pas. Amnesty International a fortement soutenu la création de la CPI, Cour pénale internationale, je vais maintenant dire CPI. Aujourd'hui encore, notre organisation milite pour que tous les pays du monde, rejoignent le statut de Rome. Le statut de Rome, c'est le statut qui a fondé cette Cour pénale internationale. Et que tous les gouvernements coopèrent pleinement à son précieux travail, en particulier en arrêtant et en remettant à la Cour les suspects en vue de leur procès. La CPI est née après plusieurs années de travail, de campagne de la part de victimes et d'ONG du monde entier. Cette campagne a donné naissance à un mouvement mondial issu de la société civile qui a uni les victimes par-delà les frontières et les continents dans leur combat en faveur des droits humains et leur lutte contre l'impunité. La petite initiative de départ a grandi pour aboutir à la coalition mondiale pour la CPI qui regroupe aujourd'hui 2500 organisations dans 150 pays du monde entier. Amnesty International a commencé dès 1993 à faire campagne pour la création de la Cour pénale internationale. L'organisation a participé de façon très active à l'élaboration du statut de Rome de la Cour, adopté en juillet 1998, et d'autres documents annexes, dont le règlement de procédure et de preuves et les éléments des crimes. Depuis son adoption, plus de la moitié des pays du monde ont ratifié le statut de Rome. Un seul pays, les États-Unis, s'est effectivement opposé à la Cour. Cependant, son opposition s'est fortement atténuée ces dernières années alors que les activités de la Cour ont montré que les préoccupations du gouvernement américain n'étaient pas fondées. Néanmoins, le pays n'a toujours pas rejoint le statut de Rome, à l'instar de la Russie ou de la Chine. La CPI est une juridiction permanente et indépendante chargée d'enquêter sur les pires crimes et d'en poursuivre les responsables lorsque les autorités nationales ne veulent pas ou ne peuvent pas les faire juger. Il s'agit de crimes les plus graves relevant du droit international, à savoir les actes de génocide et autres crimes contre l'humanité, ainsi que les crimes de guerre. Ces crimes touchent des centaines de milliers de victimes. Celles-ci participent au processus. En effet, l'une des grandes innovations du statut et du règlement de procédure et de preuve de la Cour est l'ensemble des droits accordés aux victimes. Les dispositions du statut de Rome qui portent sur les victimes donnent à celles-ci la possibilité de se faire entendre et d'obtenir, le cas échéant, une certaine forme de réparation pour les souffrances qu'elles ont endurées. Depuis le début des enquêtes, la Cour a reçu plus de 12 000 demandes de participation aux procédures relatives aux situations et plus de 9 000 demandes de réparation. Dans le cadre de l'affaire d'un procureur au Kenya dont je vous passerai le nom, il est estimé que ce sont 20 000 victimes qui sont concernées. Le statut de Rome fondant la CPI est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Sa création représente une avancée considérable en matière de justice internationale. La finalité première de la Cour est d'aider à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, touchant l'ensemble de la communauté internationale, et de contribuer ainsi à leur prévention. Ainsi, la Cour est à même de contribuer à la réalisation du mandat du Conseil de sécurité, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. En témoignent les décisions du Conseil, enfin, etc. Là, je vais vous abréger parce qu'il y a un nombre de citations qui sont moins parlantes. À l'heure actuelle, 122 pays sont partis, donc participent au statut de Rome, représentant toutes les régions du monde. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas, mais elle a également mis en place des bureaux dans les zones où elle mène des enquêtes. Par exemple, au Kinshasa, en Ouganda, en République centrafricaine, au Kenya, en Côte d'Ivoire. En septembre 2012, Amnesty International Pays-Bas et le secrétariat international d'Amnesty ont créé à La Haye le Centre pour la justice internationale, bien sûr pour être voisin de la Cour pénale internationale. La Haye, que l'on surnomme maintenant la ville de paix et de justice, se trouve durablement associée au procès pour crimes de guerre. Le centre est ainsi situé en première ligne du combat pour la justice pénale internationale. Il suit le travail de la CPI et plaide en faveur d'un système de justice internationale solide, efficace et juste. Le statut de Rome n'a jamais eu pour but de remplacer les juridictions nationales. C'est important par rapport à cette fameuse campagne crapules et vacances. Il rappelle que chaque État a le devoir d'exercer sa compétence pénale vis-à-vis des responsables de crimes internationaux. Les juridictions nationales restent donc compétentes pour juger ces crimes. En vertu du principe de complémentarité, la Cour n'intervient que dans les cas où les tribunaux nationaux n'auront pas la volonté ou sont dans l'incapacité de le faire. En effet, un gouvernement peut ne pas avoir la volonté d'engager des poursuites contre ses propres citoyens, en particulier s'il s'agit de personnalités importantes. Ça, malheureusement, c'est bien souvent le cas. Par ailleurs, lorsque le système de justice pénale d'un pays s'est désintégré à la suite d'un conflit interne, il se peut qu'aucune juridiction ne soit en mesure de juger de tels crimes. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. La Cour joue donc un rôle de catalyseur en incitant les États à assumer leurs obligations fondamentales d'enquête et de poursuite concernant ces crimes. Amnesty International exhorte les États à remplir les obligations qui pèsent sur eux en vertu du droit international et à lutter contre l'impunité au niveau international en créant des mécanismes nationaux efficaces permettant d'apporter justice, vérité et réparation aux victimes. Pour garantir le respect de leur obligation d'enquêter et de traduire en justice les personnes suspectées de crimes relevant du droit international, conformément au principe de complémentarité, et coopérer pleinement avec la CPI, tous les États parties, indépendamment de leur système juridique, doivent adopter une loi de mise en œuvre du statut dans leur législation. Par exemple, les États doivent veiller à ce que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et les formes et les modes de responsabilité pour la commission de ces crimes soient définis dans leur droit pénal conformément aux normes internationales les plus strictes. Les États doivent notamment faire en sorte que tous les crimes de violence sexuelle et liés au genre soient pénalisés conformément au droit international. De plus, des procédures de coopération avec la CPI doivent être clairement établies dans le droit national, notamment par la mise en œuvre des demandes de la Cour pour l'arrestation et la remise de personnes accusées, l'aide aux enquêtes du bureau du procureur, la facilitation de la comparution des témoins et la réponse aux sollicitations concernant d'autres formes de coopération. À ce jour, seul un peu plus de la moitié des 122 États parties à cette cour ont adopté une loi de mise en œuvre du statut de l'endroit national. Ce qui veut bien dire qu'il reste encore du travail à faire. Les États parties ne l'ayant pas encore fait doivent s'engager à adopter une loi sans tarder. En France, et on va donc passer à notre fameuse campagne dont je vous parle depuis tout à l'heure, en France, Amnesty International et d'autres organisations continuent à se mobiliser. La France est susceptible de constituer un refuge pour les criminels pouvant échapper à la justice de leur pays. 14 ans après qu'elle ait ratifié le statut de Rome. En effet, la France, en adaptant en droit interne le statut de Rome fondant la CPI, en 2010, a introduit 4 conditions restrictives et cumulatives à l'exercice de la compétence extraterritoriale du juge français. Ces conditions sont telles qu'en pratique, elles rendent impossible la poursuite en France de présumés responsables de crimes au sein de la CPI. Voilà donc pour ce petit préambule un petit peu long peut-être, mais qui permet de bien resituer l'historique et ce que c'est que le fonctionnement de la CPI et pourquoi Amnesty lance cette campagne. Pour vous la présenter, on va vous passer un petit clip que vous avez sur le site d'Amnesty. On va vous faire un quiz après, on va vous demander si vous reconnaissez la voix de la personne qui fait les commentaires. C'est une personne qui est assez connue dans les médias quand même. Vas-y, rendons.
Vous êtes un criminel de guerre ? Vous avez commis un génocide ou un crime contre l'humanité ? Je parie donc que vous craignez la compétence universelle ? Un dispositif pénal permettant à presque tous les pays du monde de vous juger pour vos crimes. Ah, sale histoire, hein ? Mais n'ayez crainte, nous avons la solution. Chez Crapule et Vacances, nous vous ouvrons les portes de notre beau pays. Eh oui, nous avons noué des partenariats privilégiés avec toutes les zones de conflit dans le monde et quelques-unes des plus belles stations balnéaires françaises. Ça, perlipopette, c'est magnifique, mais comment est-ce possible ? Eh bien, laissez-moi vous exposer les 4 failles que nous avons identifiées pour vous dans le système législatif français. Assurez-vous de remplir au moins une de ces conditions et à vous, le farniente à la française. Première faille, vos victimes ne peuvent pas porter plainte. En effet, seul un procureur de la République peut vous poursuivre. Sauf que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Toutefois, soyez prudent. Si vous n'êtes par exemple coupable que de torture, vos victimes pourraient porter plainte. Eh oui, nous sommes une maison sérieuse. Nous n'acceptons que les pires criminels. Deuxième faille. Vous n'habitez habituellement pas en France ? Alors ne craignez rien, vous ne pouvez pas être poursuivi. Troisième faille, les faits qui vous sont reprochés doivent obligatoirement être punissables par le droit français et la législation du pays dans lequel vous sévissez. En Syrie, par exemple, le crime de guerre n'existe pas. Alors, si vous vous êtes fait quelques ennemis en brûlant ce village au nord d'Alep, la côte basque est faite pour vous. Apprenez le surf et oubliez ces corps calcinés qui troublent parfois votre sommeil. Enfin, la dernière faille vous garantit une quiétude sans pareil. La France se défausse sur la Cour pénale internationale pour savoir qui doit vous condamner en premier, quand, de son côté, la Cour pénale internationale donne priorité aux États pour poursuivre vos crimes. À moi, à toi, à moi. Qui veut la patate chaude ? Eh bien, nous. Grâce à Crapule et Vacances, vous savez désormais où couler des jours heureux lorsque vous serez las de décimer des peuples. Chez Crapule et Vacances, nous vous aidons, vous, coupables de crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes de guerre, à vous ressourcer grâce aux failles de la législation française. Alors, venez visiter le plus beau pays du monde et oubliez votre passé douloureux. Vive le pays des droits de l'homme, vive les crapules et vive la France. Crapules et vacances, cruauté, impunité, tranquillité.
Voilà donc ce petit clip qu'on voulait vous passer, qui est très bien fait. Si vous allez sur Internet, sur le site d'Amnesty, vous avez les images avec. C'est un petit, un petit dessin animé qui présente ça. Donc, Renan, tu sais, toi, la réponse, est, je demandais à Patrice et Françoise, là, qu'on n'a pas encore parlé depuis le début, qui sont bien silencieux. Si quelqu'un a reconnu qui est-ce qui parlait ?
François Morel.
C'est François Morel qui, effectivement.
C'est souvent lui.
Ah, oui, qui, vrai, depuis 2 ou 3 ans, nous soutient par rapport à beaucoup de campagnes. Il avait fait le marathon des. Enfin, les 10 jours pour signer, pardon, l'année dernière, et ça fait plusieurs fois qu'il nous soutient. Et voilà, donc on le remercie. Et donc, on vous a expliqué en quelques. Enfin, ce petit clip vous explique en quelques mots à travers quelles failles de la loi française. Alors, ce n'est pas tout à fait des failles, il faut bien le dire. parce qu'en fait, ce sont des verrous, entre guillemets, qui ont été mis lorsque la France a ratifié le statut de la Cour de Rome, donc l'a fait rentrer dans son droit. Et le Parlement a établi, c'était en 2010, si je ne me trompe pas, le Parlement a établi ces normes-là qui permettent donc à ces criminels de guerre de passer les barrières et de venir chez nous. C'est quand même, comme disait François Morel à la fin du clip, un comble. Patrice, je pense que tu peux... Alors, c'est tiré d'un journal qui s'appelle AGI, qui est un journal pour les jeunes, qui est publié tous les trimestres par Amnesty International, qui est un très bon journal, parce que c'est très pédagogique et c'est très clair. Il va vous lire un petit texte un peu humoristique. Non, c'est celui-ci. il va vous rappeler, en fait, les quatre verrous qui viennent d'être énoncés, les quatre verrous qui ont été mis par la loi française et qui permettent aux criminels de venir chez nous.
Je suis désolé, mais c'est moi qui lis.
Excusez-moi, on s'est trompé dans la...
En plus, tu m'as fait signe avant et tout.
Donc, c'est moi qui me trompe. Toutes mes excuses à Ronan. C'est Ronan qui va vous lire ce petit texte. Écoutez bien.
Loi sueur. Comment protège-t-on les grands criminels en France ? Imagine John Martin, dirigeant de Powerland, État dont l'histoire est marquée par un conflit armé violent contre un État frontalier. Imagine ce dirigeant comme étant suspecté par la communauté internationale et la CPI comme auteur de crimes contre l'humanité durant ce conflit. Imagine maintenant ce John Martin en France, sur un yacht à Saint-Tropez ou en train de se balader sur les Champs-Élysées, non loin de lieu où se trouvent les représentants français de la justice. Sache qu'il ne sera pas condamné pour ses crimes. Sache que la CPI, normalement compétente pour cela, se trouve bloquée par 4 verrous législatifs, Didier, il vient de parler justement de ces verrous-là, législatifs français inscrits dans notre code de procédure pénale. Le premier verrou. La procédure ne peut être lancée que si le suspect réside de manière habituelle en France. Or, John Martin, sur son yacht à Saint-Tropez, ne peut être considéré comme résident habituel puisque le mal de mer et le climat hivernal le feront vite repartir. Le deuxième verrou veut que John Martin ne puisse être condamné pour crime contre l'humanité que si un tel crime est pénalement condamnable dans son état. Bien sûr, à Powerland, aucune loi explicite n'existe pour cela. John Martin peut donc continuer sa promenade autour de l'Arc de Triomphe sans trop s'inquiéter. Et le troisième verrou exige que John Martin soit poursuivi seulement si la CPI a décliné expressément sa compétence, tandis que dans les cours normales des choses, John Martin devrait être poursuivi par la France, car c'est elle qui est en premier lieu en la responsabilité. La CPI n'est qu'une juridiction de dernier recours. Enfin, le quatrième verrou veut que le ministère public, défenseur de l'intérêt public devant les tribunaux, soit le seul à pouvoir engager une action publique contre John Martin. Cela va à l'encontre du droit fondamental des victimes à un procès équitable, puisque ces derniers sont complètement déchus de toute possibilité de dénoncer et de porter plainte contre celui qui leur a causé préjudice. Bien que Jean-Pierre Sueur, ancien président de la commission des lois lois au Sénat, soit l'initiative d'une proposition de loi abolissant ces quatre verrous, les avancées restent timides. En 2013, le Sénat a approuvé cette loi faisant sauter les trois premiers verrous. Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a toujours pas inscrit à son ordre du jour une discussion sur ce texte faisant craindre son oubli pur et simple. La coalition française pour la CPI, dont Amnesty International France assure la présidence, continue à se battre pour que le Parlement et le gouvernement daignent s'intéresser à ce sujet, beaucoup trop important pour qu'il soit oublié.
Voilà, donc c'était un petit rappel sur les quatre verrous. Donc cette campagne-là, effectivement, qu'on a lancée, Crapule et Vacances, c'est pour obtenir la levée de ces quatre verrous, leur suppression pure et simple. Première action, parce que, bon, effectivement, pour l'instant, c'est d'ailleurs la seule qui a été lancée, c'est parce qu'il y en aura sûrement d'autres dans les mois à venir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter le site d'Amnesty, www.amnesty.fr, pour en savoir plus. Vous avez une pétition qu'on vous engage tous à signer en ligne, qui demande auprès des autorités françaises à ce que le projet de loi, le projet de la motion déposée par Jean-Pierre Sueur auprès du Sénat, aboutisse, ce projet, effectivement, visant à supprimer ces quatre verrous et à faire que les criminels de guerre puissent enfin être normalement jugés chez nous. Et toujours, alors, dans ce petit journal AGI, là, d'Amnesty, là, c'est, je ne me trompe pas, c'est Patrice qui va vous le lire. Là, j'ai tout bon sur qui dit quoi. Ça s'appelle « 24 heures dans la peau d'un bourreau à Paris ». Oui, bien sûr. Okay.
Voilà. « Ayant été injustement écarté du pouvoir dans mon pays, j'ai décidé de venir me prélasser dans les beaux quartiers de Paris. Non pas que je sois fatigué, me voilà accusé de crimes contre l'humanité. J'avais été contraint de faire taire une partie de mes sujets, c'est vrai. Ça m'avait crevé le cœur et suscité un charivari diplomatique, mais c'était pour le bien du peuple. Il faut parfois savoir faire des sacrifices, n'est-ce pas ? Heureusement, j'ai le soutien du pays des droits de l'homme. L'hospitalité à la française reste incomparable. J'ai été accueilli ce matin discrètement à Villacoublay et monsieur le ministre de la Justice française, mon bienfaiteur, me l'a assuré, je serai ici protégé. Une loi a été votée pour faire en sorte que des amis de la France comme moi ne soient pas importunés par de soi-disant plaignants en tout genre. Avouons que notre pétrole et notre gaz sont gages d'une amitié inaltérable. Une chambre de mon palais était d'ailleurs exclusivement réservée au président français, ainsi qu'à ses ministres des Affaires étrangères, de l'Économie et des Finances, qui venaient me rendre visite régulièrement à tour de rôle. Après quelques accolades officielles et petits fours, j'ai pu gagner mon pied à terre, avenue Foch, un modeste lieu de quiétude où j'ai retrouvé mon humeur joviale. Je ne suis pas punissable en France. Mon épouse a elle aussi fait quelques emplettes du faubourg Saint-Honoré pour se détendre et déguster un savoureux croissant au café de Flore. Nous avons ensuite déjeuné dans le patio de Georges V, où j'ai pu discuter avec mes anciens conciles. Le terme « génocide » ne faisant pas partie de notre vocabulaire juridique, je ne suis pas punissable en France. J'aime l'indulgence de ce pays. J'en ai aussi profité pour apporter ma liste de courses. Comme les Français aiment à plaisanter, légitimer ma prise de pouvoir peut être un peu sportive, mais justifiée par la lutte contre le terrorisme et semer un imbroglio auprès de la Cour pénale internationale. Pendant une balade dans le jardin des Tuileries cet après-midi, on m'a expliqué que la France, dans ce type d'affaires, refuse d'agir avant la CPI en violation du droit, puisque la CPI donne elle-même la priorité aux États en matière de crimes de guerre. Mais c'est la loi française. Ils sont géniaux, ces juristes français, qui savent inventer de pareils embrouillamini. Bref, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Si les Français sont mes amis, une vraie bande de potes, toujours décontractés, la cravate de travers, j'ai d'ailleurs apporté un cadeau à chacun d'entre eux, enfin d'une valeur inférieure à 150 euros. Je tiens à respecter le protocole de mes hôtes.
Voilà, donc tout ça c'était dit, enfin, encore une fois, sur un ton un peu humoristique, mais malheureusement, ça ne fait que décrire la réalité. Donc les criminels de guerre, effectivement, à l'heure actuelle, grâce à ces préambules mis dans la loi française...
Ils viennent en vacances en France.
Voilà, et ils peuvent être à peu près tranquilles sur le fait qu'il ne leur arrivera rien. Donc ça, c'est contraire, comme je vous disais au début, c'est contraire au fait qu'on puisse vivre en paix entre nous et que les gens qui sont coupables de crimes... ne peuvent pas, sous prétexte qu'ils nous vendent, comme il est dit dans l'article, qu'ils nous vendent du gaz ou du pétrole. Tiens donc, on ferait passer le fait d'acheter ou de vendre du gaz ou du pétrole avant les droits humains ?
Je crains.
C'est des mauvaises langues qui disent ça. Et donc, le fait de vendre ou d'acheter du gaz ou du pétrole, non, ça passe pas avant les droits humains, ça passe après. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, c'est une façon très simple de résumer les choses. Si vous êtes d'accord avec ça, allez signer la pétition dans un premier temps. Je pense qu'on vous en reparlera. Et soutenez cette campagne, faites-la connaître autour de vous. Parlez-en à vos amis, vos copains, tout ce que vous voulez, etc. Allez sur le site. Ça s'appelle, c'est très ironique, c'est très bien fait. Ça s'appelle Crapules et Vacances. Les vacances, on est pour, mais les crapules, nous, on est contre.
Je pense qu'en parlant de vacances, c'est peut-être du moment pour...
On va faire une pause musicale. On a été très long dans cette première partie. Mais j'en suis co-responsable. J'avoue ma responsabilité. Pause musicale. Every evening, when all my days were through, I call my baby and ask him what should we do. I mention movies, but he don't seem to dig that. And baby asks me, why don't I come to his flat and have some supper and let the evening pass by by playing records beside a groovy hi-fi. I say, yeah, yeah, that's what I say. I say, yeah, yeah. My baby loves me. She gets a feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say, yeah, yeah.
franchement lâché, j'égayais. We gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me.
Yeah, pretty baby, I never knew such a thrill. Just thought I'd tell you, because I'm trembling still.
But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to leave those others alone.
No need to ask me if everything is okay. I got my answer.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, il y a Françoise qui est très impatiente de vous parler. Je vais te passer la parole tout de suite. Juste annoncer le morceau, c'était donc sur le dernier disque de Diana Krall, quelqu'un que j'aime bien.
Une chanteuse, moi aussi.
Une chanteuse de jazz, mais là qui a fait des reprises de différentes chansons, dont des reprises de rock. Le disque s'appelle, si j'ai bonne mémoire, le dernier qui vient de sortir, s'appelle Wallflower, quelque chose comme ça.
C'est tout à fait
et
ça.
Et ben voilà. Et le morceau s'appelait Yeyer, ce qui est très simple comme titre. Voilà. Donc Françoise, vous voulez parler d'un sujet très important. Voilà, c'est les droits des enfants.
Voilà. Alors, au moins un quart des migrants en Europe sont des enfants. Anthony Lake, directeur exécutif de l'UNICEF, a fait une déclaration le 3 septembre 2015 à New York sur la crise des enfants migrants et réfugiés en Europe. Suite aux images choquantes diffusées à travers le monde sur les réseaux sociaux, les écrans de télé et à la une des journaux, il appelle à agir et que les mesures suivantes soient prises. Protéger ces enfants à travers l'accès à des services essentiels à toutes les étapes de leur exil, notamment soins de santé, nourriture, soutien psychologique et éducation, ainsi qu'à des abris adaptés aux réfugiés et migrants et qui permettent aux familles de rester ensemble. Déployer des personnels formés, spécialisés dans l'enfance et en nombre suffisant pour soutenir les enfants et leurs familles. Poursuivre les opérations de recherche et de sauvetage non seulement en mer, mais aussi sur terre, et faire le maximum pour prévenir tout abus et exploitation à l'encontre des enfants réfugiés et migrants. Faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une priorité dans toutes les décisions concernant ces enfants, notamment dans les cas de demande d'asile. Alors qu'ont lieu les débats sur les politiques migratoires, nous ne devons jamais perdre de vue la dimension profondément humaine de la crise, insiste-t-il. Ni perdre de vue les enfants, ni perdre de vue l'échelle de ce drame. Pendant les 6 premiers mois de l'année, 106 000 enfants ont demandé l'asile en Europe. Et nous ne devrions jamais oublier ce qu'il y a derrière l'histoire de chacune de ces familles cherchant asile. Des terribles conflits, comme celui en Syrie, qui a déjà forcé 2 millions d'enfants à fuir leur pays. Seule la fin de ces conflits pourra mettre un terme à leur tragédie, conclut-il. Et voici les 10 recommandations de l'UNICEF. Le 21 septembre 2015, l'UNICEF a publié les ces recommandations donc suivantes à destination de la France et de l'Union européenne.
Donc c'est Patrice qui va vous les lire.
Voilà. Alors, 10 recommandations. En toutes circonstances, reconnaître toujours et avant tout les enfants réfugiés et migrants comme étant des enfants comme le CIPUL. Alors c'est un sigle.
La CIDE.
La CIDE, bon, on va vous dire. Hein, voilà.
C'est, okay. c'est la...
Ah, qu'on fait... Qu'on...
Oui,
oui, ça vient.
International des droits de l'enfant.
La convention.
La convention. Le mot m'échappait. On en a parlé longuement l'année dernière, okay. À cause de son anniversaire. C'est ça. C'est la convention internationale des droits de l'enfant.
Appliquer la législation existante pour sauvegarder et protéger les droits des enfants affectés par la migration. Je vous lis l'essentiel. Dans toutes leurs décisions, les autorités doivent se baser sur la CID qu'on retrouve. L'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toutes les décisions relatives à la protection internationale. Point 4. Protéger les enfants immigrés et migrants en renforçant les systèmes nationaux intégrés de protection de l'enfant. Les enfants ne doivent pas être placés dans des centres de rétention ni être séparés de leur famille pour des motifs de migration. Dans les opérations de recherche et de sauvetage, il faut soutenir le droit maritime international et la coutume de sauver et de protéger les vies. À tout moment, pendant et après les opérations de sauvetage et de recherche, les enfants et les parents, et les femmes enceintes doivent recevoir une attention et des soins particuliers. Tous les enfants, quel que soit leur statut légal et celui de leurs parents, doivent bénéficier d'un accès équitable à une éducation de qualité, à des soins de santé. Tous les enfants doivent bénéficier d'une protection sans la moindre discrimination. Et point 10, investir dans l'éradication des causes profondes de l'émigration dans une approche globale qui inclut la réduction du risque, la réponse d'urgence et le développement.
Juste un petit commentaire, ce que vient de vous lire Patrice. On en avait parlé dans une émission il y a à peu près un an, je pense qu'elle date d'octobre 2014, parce qu'on avait fait une chronique justement sur l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, et on avait parlé de ces points-là, effectivement, donc c'était un petit rappel. Et puis, juste un deuxième commentaire sur ce que vient de vous dire Françoise, et après, elle continuera sa petite chronique des droits de l'enfant. Par rapport aux réfugiés, on en a parlé longuement le mois dernier, donc on va pas revenir dessus tout de suite. On reviendra dessus dans d'autres émissions, mais pas ce soir. Je rappelle
aussi... On aimerait bien ne pas revenir dessus.
Oui, bien sûr. Mais malheureusement, c'est sûr qu'on sera amené à le faire. Je rappelle aussi qu'Amnesty, quand même, par rapport à ce qui se passe en Syrie, a demandé depuis des années... Deux choses, entre autres deux choses. D'une part, que M. Bachar el-Assad soit poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre. Première chose, du moins crimes de guerre, contre l'humanité peut-être pas, mais au moins pour crimes de guerre, première chose. Et que deuxièmement, ça aurait évité effectivement qu'il continue ses exactions et que donc il martyrise sa population. Et que deuxièmement, ça avait été demandé aussi par d'autres instances, mais Amnesty a soutenu que les avoirs de la famille de Bachar el-Assad à l'étranger soient mis sous scellé de façon à l'attaquer là où ça fait le plus mal, au portefeuille. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, pour l'instant, c'est resté lettre morte. Lettre morte. Si on avait agi un petit peu plus en amont, il y aurait peut-être un problème des réfugiés qui ne se passerait pas tout à fait dans les mêmes conditions à l'heure actuelle.
C'est certain.
Françoise.
Oui, eh bien Amnesty vient de sortir un rapport sur les diamants de Centrafrique. Les enfants paient cher le carat. Dans un rapport qu'Amnesty vient d'éditer, l'organisation détaille, en prenant l'exemple de la République centrafricaine, la chaîne d'approvisionnement mondial en diamants. Issu d'un travail documentaire poussé et d'enquête sur le terrain, ce rapport dénonce les pratiques de certaines entreprises pour acheter des diamants sur le marché intérieur de la République centrafricaine, permettant ainsi le financement des milices Séléka et Anti-Balakas. Échappant au processus de Kimberley, l'ensemble des règles édictées après la tragédie de la Sierra Leone pour réguler le trafic, la contrebande vers la RDC ou le Cameroun permet la mise sur le marché mondial de diamants de la guerre. Le manque de contrôle de la part des entreprises sur l'origine des diamants autorise toutes les atteintes aux droits humains. Parmi celles-ci, en plus des exactions dues aux milices, il y a les conditions de travail dans les mines artisanales, accidents, maladies et surtout le travail des enfants. Plutôt que d'envoyer leurs enfants à l'école, les familles les envoient travailler dans les mines dès l'âge de 11 ans. Je peux vous lire quelques extraits du rapport. Des organisations non gouvernementales ont signalé des cas de travail des enfants dans les mines du diamant et Amnesty a vu plusieurs enfants, dont un garçon de 11 ans, travailler dans des conditions dangereuses sur un site d'extraction. Toutefois, l'ampleur de ce phénomène n'a jamais été étudiée. Le dur labeur physique est source d'épuisement, de hernie, alors que les blessures et les accidents sont monnaie courante. Des mineurs meurent sous l'éboulement des parois des puits et les plongeurs ne refont parfois pas surface. Beaucoup d'entre eux quittent leur village, accompagnés de leur famille pour aller s'installer dans des campements de fortune près des mines, où ils sont encore plus vulnérables face au paludisme et où ils contractent souvent des parasites après avoir bu l'eau des rivières souillées par leurs propres excréments. L'éducation souffre de la concurrence de la mine, les parents encourageant leurs enfants dès l'âge de 11 ans à creuser ou à tamiser au lieu d'aller à l'école. Et en effet, plusieurs ONG ont signalé l'existence du travail des enfants dans ce secteur, mais aucune étude formelle n'a été menée pour évaluer l'ampleur de ce phénomène. Amnesty demande de prendre des mesures respectant l'intérêt supérieur de l'enfant pour éradiquer le travail des enfants dans ces mines.
Oui, il y a eu des reportages qui ont été faits d'ailleurs, j'en ai vu à la télévision, entre autres sur les métaux précieux pour les téléphones portables, etc., qui reprenaient ce genre de choses. Là aussi, il reste énormément de travail pour faire respecter un minimum de droits et de respect des autres et de respect des enfants.
C'est peut-être le moment de faire quelques bonnes nouvelles.
Je pense qu'après toutes ces informations, effectivement, c'est de vous montrer effectivement à quoi nous servons-nous à Amnesty International.
Je prends un peu la parole.
Pourquoi
parce
on
que
vous parle de tout ça.
Je me répète, vu que le mois dernier, on ne m'a pas laissé, là, je la prends carrément la parole.
Bon, vous remarquerez que Ronan conteste largement le fait qu'il n'ait pas accès au micro comme il le voudrait. Vas-y, Ronan.
Mais non, mais pour les bonnes nouvelles, il faut quand même avoir accès. Donc là, on part aux États-Unis. Il y a un petit pas contre la torture. Le Sénat américain a adopté un amendement qui exige de tous les agents américains, y compris ceux des services de renseignement, qu'ils se conforment aux standards établis par l'US Army Field Manual. Alors c'est quoi ça, l'US Army Field Manual ?
Bah, tu vas nous le dire. c'est des procédures légales, je crois, j'ai aperçu ça.
C'est le manuel de campagne, légales, voilà. C'est le manuel de campagne de l'armée de terre. Donc on leur demande qu'ils restent conformes au niveau de leur interrogatoire par rapport à ce manuel. Parmi les techniques interdites, les simulacres d'exécution, l'humiliation sexuelle, le port contraint d'une cagoule et l'immersion forcée. Il ne faut cependant pas encore crier victoire, car la loi doit obtenir l'approbation de la Chambre des représentants dans le cas du projet de loi sur l'autorisation de programme pour la défense, puis être approuvée par le président. Mais c'est quand même une avancée parce qu'ils commencent à en parler, donc déjà,
bien sûr.
C'est déjà une avancée.
Bien sûr.
Alors, notre bonne nouvelle, bonne nouvelle, que celle-là, je la donne tous les ans, c'est la personne qui a reçu le fameux prix Martin Ennals. Mmh. Donc, j'ai besoin de dire ce que c'est le prix Martin Ennals.
Bah, tu vas nous le rappeler.
Donc, déjà, la personne qui a reçu le prix, c'est Ahmed Mansour. Elle a reçu donc le prix le Martin Ennals pour les défenseurs des droits humains. Il a été décerné le mardi 6 octobre et ce prix vise à mettre en lumière le travail d'hommes et de femmes engagés afin de les protéger en les mettant en lumière. Donc depuis 2016, Ahmed Mansour se concentre sur des initiatives touchant à la liberté d'expression, droit civil et politique. Donc il a eu droit, au prix. Allez,
tu peux nous en donner une troisième bonne nouvelle ?
Ah oui.
Allez.
Juste que je trouve mon papier.
Dit-il, en cherchant dans ses feuilles.
Là, on part au Kenya.
Ah.
Suspension de l'expulsion forcée de 3000 habitants. Le projet d'expulsion forcée de milliers d'habitants du quartier informel de Dipsi à Nairobi a été suspendu de façon temporaire. L'Union européenne a accepté de dialoguer avec l'autorité de la voirie urbaine du Kenya pour veiller à ce que l'expulsion des habitants qui doit permettre la construction d'une route soit effectuée en conformité avec les normes internationales en matière des droits humains.
Bien, bah écoute, c'est des choses encourageantes.
Tout à fait, tout à fait.
Je crois que Patrice voulait vous parler effectivement d'un sujet
un peu moins.
Je crois que c'était prévu maintenant, sauf erreur, hein, dans notre petit conducteur. Mais le temps passe. Mais on a encore un petit peu de temps.
Merci, Patrice.
Donc, il va vous parler de l'évolution d'un sujet important pour Amnesty, qui est l'abolition de la peine de mort.
Voilà. Peine de mort début 2015, le bon et le mauvais. Pour la peine de mort, les six premiers mois de 2015 ont été témoins de développements fortement contrastés. Alors que les bonnes nouvelles sont très bonnes, les mauvaises nouvelles sont vraiment mauvaises. Alors, le bon. Trois pays ont aboli la peine de mort au cours des trois premiers mois de 2015. Madagascar, Fidji et l'État sud-américain du Suriname. Trois autres pays sont prêts d'abolir la peine capitale, la Mongolie, le Burkina Faso, la Corée du Sud. La tendance vers l'abolition aux États-Unis a le vent en poupe, puisque le Nebraska a aboli la peine de mort et devenant ainsi le 19e État abolitionniste aux USA. On dit aussi qu'en Pennsylvanie, un moratoire a été décidé par le gouverneur. Les pays qui procèdent à des exécutions sont une minorité. Au cours des cinq dernières années, en moyenne 22 pays ont procédé annuellement à des exécutions. Plus de la moitié des pays dans le monde ont aboli la peine de mort. Et malheureusement, il faut vous parler du mauvais. Les exécutions ont repris en Indonésie. Le Pakistan se retrouve bientôt parmi les plus grands bourreaux au monde. Le Pakistan se rapproche de plus en plus du club peu enviable des pays exécutant le plus. Et je vous donne le détail parce qu'il faut l'avoir en mémoire. Il s'agit de la Chine, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak et des États-Unis.
Je crois que la Chine, elle est loin, loin devant tout le monde.
Ah mais oui. La Chine, elle est encore en toute catégorie.
D'autant qu'en Chine, on n'a pas de chiffres, si l'on peut dire, très valables.
Mais ça doit dépasser largement le millier d'exécutions par an.
La dernière, je crois que c'était 2000, en tout cas. Oui.
L'Indonésie et le Pakistan se servent de la criminalité et du terrorisme comme excuse afin de reprendre les exécutions. En parlant d'Indonésie, on peut soulever le cas de notre compatriote Serge Atlaoui, qui attend d'être toujours pas fixé sur son sort.
Enfin, il a été condamné à mort.
L'Iran semble vouloir surpasser son total d'exécutions de 2014, puisque l'Iran a exécuté près de 700 personnes depuis le début de l'année, alors que en 2014, Amnesty a enregistré au moins 743 exécutions en Iran. Donc là, on peut penser que ça sera un doublement, quoi. L'Arabie saoudite a déjà exécuté plus de personnes qu'elle ne l'avait fait en 2014.
Et Saïd n'est pas là pour faire son coup de gueule, c'est l'Arabie saoudite.
Non, on l'a fait le mois dernier, effectivement. C'était très bien. Oui,
c'était très bien. Ouais.
Quand on pense que l'Arabie saoudite est effectivement responsable de la Commission des droits de l'homme de l'ONU actuellement.
Ah oui.
C'est un scandale sans nom. Et effectivement, son coup de gueule était plus que justifié.
J'en profite pour faire un petit coucou à Saïd.
Oui, qui devait être là ce soir, mais qui est un peu souffrante. On lui fait un gros bisou.
Un petit plus. Ça s'est passé, mais cette année, la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort, qui était le 10 octobre, et notamment Amnesty, s'est focalisée sur le recours à la peine de mort pour les infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Il faut savoir qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, on va les citer pour mémoire, Indonésie, Arabie, Iran, Malaisie, Vietnam, Singapour, Thaïlande, Sri Lanka, Chine, Émirats Arabes Unis, qui effectivement ont dans leur législation le recours à la peine de mort dès qu'il y a infraction liée à la législation sur les stupéfiants. Et Amnesty a mis une grande campagne, sujet concernant l'Arabie, l'Iran et la Malaisie, qui sont les trois pays visés.
Toujours les mêmes.
Voilà.
Donc ce qu'on peut dire en gros, c'est qu'il y a quand même une tendance au nombre de pays abolitionnistes qui continue à s'accroître, mais qu'on constate que parmi les pays qui n'ont pas aboli et qui continuent à pratiquer la peine de mort, le nombre d'exécutions augmente en flèche, effectivement. Donc tendance générale plutôt intéressante, mais tendance locale, je dirais, donc au sein de ces pays-là, particulièrement alarmante.
Oui, complètement.
On va peut-être, François, je ne sais pas si tu avais d'autres choses sur le droit
des
enfants. Oui,
d'autres choses, mais peut-être une pause.
On fera la pause juste après. Renan va vous faire un appel à l'action. Le mois dernier, on avait dû le chanter par manque de temps. Mais cette année, on fait une petite appel à l'action. On vous rappelle qu'il faut nous contacter si vous êtes intéressé par l'action dont va vous parler Renan. Il faut nous contacter sur notre mail. Vous nous envoyez vos coordonnées et on vous envoie l'action toute faite sur notre mail amnesty.evreux@gmail.com.
Et en plus, l'action urgente, elle se situe en France.
Alors, vas-y.
Donc, c'est protéger des familles roms expulsées de leur logement et laissées sans abri. Un groupe de 150 personnes, dont des femmes enceintes et des enfants, campent depuis septembre devant la mairie de la Courneuve, en région parisienne. La plupart sont des migrants roms de Roumanie. En août, ces personnes ont été expulsées de force du bidonville Le Samaritain, en violation des normes internationales relatives aux droits humains. À l'approche de l'hiver, ces hommes, ces femmes et ces enfants doivent immédiatement être relogés. Ces familles n'ont pas été véritablement consultées avant l'expulsion et n'ont pas été averties de la date de l'évacuation. Le jour de l'opération, les agents de la force publique n'ont pas donné aux familles le temps suffisant pour qu'elles rassemblent leurs affaires. De ce fait, beaucoup ont perdu leurs papiers. Donc, ce qu'on vous demande, c'est tout simple, hein, c'est comme d'habitude, c'est écrire un petit courrier qui est déjà prémâché. Donc, cette fois-ci, c'est un courrier envoyé au préfet de la Seine-Saint-Denis, donc, demandant donc, un logement adéquat pour les familles roms et un suivi par rapport à leur situation sociale et sanitaire.
Voilà, ça fait suite à, si vous avez écouté l'émission du mois dernier, il y avait Edith qui vous avait parlé longuement du droit des roms. Et donc, ça fait suite un petit peu à ça.
Et
donc,
ça se passe en France.
Voilà, c'est tout à fait, ça se passe en France. Donc, vous nous envoyez vos coordonnées, on vous envoie le courrier tout fait. Nous envoyons un mail à amnesty.evreux@gmail.com. Quelques mesures musicales, on va dire. On ira pas jusqu'au bout du morceau, je crois. Voilà, de retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux. On vient d'écouter.
C'est pas lui qui chantait le groupe. Hein.
Non, c'est pas lui qui chantait.
Sûrement pas.
C'est pas lui qui chantait.
Non, mais la façon dont tu le présentes, c'est le groupe.
Ah oui. Non, c'est nous qui sommes de retour sur l'antenne après donc la pause musicale. qui était Bob Dylan, une version en public d'une chanson qu'il avait composée il y a pas mal d'années, qui s'appelle All Along the Watchtower. Et Renan m'a dit à juste titre pendant la pause qu'il préférait la reprise qui avait été faite par Jimi Hendrix. Effectivement, bah, c'était plus connu joué par Jimi Hendrix que la version originale chantée par Bob Dylan.
C'était un peu plus violent, on va dire.
Voilà.
Sans vouloir faire de jeu de mots.
Bon, une petite bonne nouvelle concernant les enfants.
Françoise veut continuer à vous parler des enfants, donc on va lui laisser la parole sans problème.
Libération d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Donc 567 enfants soldats ont été libérés au cours des 6 premiers mois de l'année 2015. Ces enfants ont été réussi à s'échapper à la faveur d'une offensive de l'armée congolaise contre les forces démocratiques de libération du Rwanda. Ils avaient été recrutés lors d'attaques par les FLDR au cours de l'année 2014. Enlevés, obligés à porter des butins, des rapines des miliciens, ils ont été ensuite tenus de rester pour être utilisés comme porteurs, cuisiniers, etc. Bon. L'immense majorité de ces enfants sont de nationalité congolaise. 16% d'entre eux sont considérés comme des combattants. Un tiers de ces enfants avaient moins de 15 ans le jour de leur enrôlement. De même, au nord-est du pays, en Ituri, le Front de Résistance Patriotique fait face à des offensives conjointes de l'armée congolaise et de la MONUSCO. Au cours des combats, 113 enfants ont pu s'enfuir et demander protection auprès de la MONUSCO ou d'ONG. Le problème urgent à résoudre étant celui de la réinsertion de ces enfants dans la société civile afin qu'ils ne réintègrent pas les milices. Mais au moins, bon, ils sont libérés de cette... du fait d'être enfant soldat.
Voilà, je rappelle que le fait d'incorporer des enfants soldats, quel que soit le pays, quel que soit le régime qui le fait, c'est un crime de guerre. Et que donc c'est du ressort, on va revenir au point de départ de notre émission de ce soir, c'est du ressort de l'action de la Cour pénale internationale, effectivement. Donc tant mieux si effectivement ces enfants ont pu sortir de l'enfer que représente le fait d'être enfant soldat.
Et oui.
On voulait dire un petit mot, je vais quand même en dire un petit mot, on se demandait si on allait vous en parler vu le peu de temps qui nous reste, mais si c'est bon, je vais quand même vous dire un petit mot sur un vote qui va avoir lieu probablement ce soir. On va toujours parler de la France, comme quoi les droits humains en France, c'est pas non plus si bien que ça. C'est une loi qui a été déjà votée par l'Assemblée nationale et qui va sans doute être votée en France dans le plus grand silence médiatique. C'est la loi sur la surveillance des télécommunications, que ce soit Internet, mail, téléphone portable et autres, qui fait suite aux décisions du gouvernement par rapport aux attentats de Charlie Hebdo au début de cette année. Amnesty a fait campagne en disant, avec d'autres ONG, on était un certain nombre, a fait campagne par rapport à ces projets de loi, disant qu'ils étaient potentiellement liberticides. Effectivement, quand vous savez que vos communications vont être épiées, que l'État va avoir le droit potentiellement de lire ce qu'il y a dans vos mails, de voir quelles actions vous faites, de voir pourquoi, sur quel sujet vous vous intéressez, ce pourquoi vous militez, etc. etc. C'est la porte ouverte à n'importe quel abus, pour appeler un chat un chat. Donc la loi a déjà été adoptée par le Parlement au mois de juin. Elle va passer ce soir au Sénat.
Surtout qu'on sait bien que ça ne sert à rien.
On a écrit au nom d'Amnesty Évreux aux sénateurs pour leur confirmer toutes les craintes qu'on avait par rapport à cette
Et
loi.
Et combien nous ont répondu déjà des sénateurs ?
Zéro. On a écrit aux quatre sénateurs du département, aux trois pardon, sénateurs et sénatrices du département de l'Eure. Avec un petit dossier résumant la position d'Amnesty sur la question. Personne n'a répondu. On pense que ce soir, la loi va être confirmée par le Sénat avec quasiment personne de présent dans l'hémicycle.
Ouais,
on se dit que s'il y a moins de 10 sénateurs, ce sera à peu près tout. Et que donc, effectivement, cette loi potentiellement liberticide va passer comme une lettre à la poste dans la plus grande indifférence générale, puisque aucun média n'en parle. Nous, on en parle ce soir sur l'antenne de Principe Actif, mais on doit être parmi les très rares qui en parlons. Donc voilà, mais bon, si on vous le dit pour l'instant, effectivement, c'est pas très enthousiasmant, mais comme on vous dit toujours, Amnesty ne lâche rien, donc on continuera à agir pour l'abrogation de ces mesures potentiellement liberticides. Voilà, notre actualité locale, bah, c'est bien sûr notre expo artisanale et foire aux livres. Retenez bien cette date, on vous en reparlera dans la prochaine émission qui aura lieu juste avant. Mais retenez-la déjà, c'est le dimanche 29 novembre à la Halle des Expositions d'Évreux, de 10h à 19h. Exposition artisanale et foire aux livres, qui est un phénomène bien connu maintenant à Évreux. On espère vous y retrouver nombreux. On doit arriver à pas loin de la 30e, je crois, quelque chose comme ça. Françoise, qui est très ancienne dans le groupe, le sait mieux que moi. Mais on n'est pas loin de la 30e, voire dépasser la 30e. Donc, Expo artisanale et foire aux livres, dimanche 29 novembre, 10h à 19h. C'est aussi une façon de nous soutenir financièrement. On vous rappelle que toutes les ventes que l'on fait dans le cadre de ces manifestations financent le groupe. Renan m'a déjà retiré la parole générique de fin. Et notre prochaine émission, c'est quand ?
C'est le 24 novembre.
Merci.
Le mardi 24 novembre.
Rendez-vous mardi 24 novembre. Bonsoir à tous.
Allez,
bonsoir.
Et au mois prochain. Bonsoir.
Libre et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit.
Je me reste, c'est tout ce que je souhaite. Malgré mon mal au cul, aux bronches et à la tête. Et merde, en plus de ça, j'ai des trous aux pieds. J'ai perdu mes illusions et tous mes papiers. J'ai plus de sous, de bijoux, de cailloux. Je manque de tout, je manque de